Docteur Brou Djangi Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Kone.
Dans un rapport, la CUNCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, s'inquiète du niveau de surendettement de certains pays africains. Alors, le fait que la CUNCED insiste sur ce surendettement, est-ce qu'il faut s'alarmer? Est-ce qu'il y a un niveau acceptable et un niveau sur lequel il faut faire attention?
Bien évidemment, il faut s'alarmer. Il faut s'alarmer. Quand on parle de surendettement, ça veut dire que la dette est trop excessive, au point de laisser croire qu'en l'état actuel, les pays en situation de surendettement ne vont en outre mesure s'en sortir. Bien de pays ont contracté des dettes, donc se sont endettés, mais à la mesure du possible, ces pays arrivent à relancer leur économie. Mais lorsqu'on arrive dans une situation de surendettement, ça veut dire que le poids de la dette est tellement lourd, donc insupportable, et du coup, ça va de soi que l'on s'en alarme.
Alors, la même organisation des Nations Unies détermine 8 pays africains qui sont déjà en situation de surendettement et 13 autres présentent des risques élevés de surendettement. Quel commentaire vous pouvez en faire déjà?
Mais déjà, il faut dire que ce n'est pas reluisant en ce qui concerne les pays africains. On est en train d'avoisiner un taux d'endettement qui dépasse largement les 50% rapporté à leur PIB, bien évidemment. Donc, il faut franchement s'en alarmer et ce n'est pas reluisant objectivement pour les pays africains.
Alors, quels sont les risques, justement, pour ces pays-là, quand ils sont surendettés?
Les conséquences sont plurielles. Déjà, lorsque vous êtes surendetté, ça va de soi que vos créanciers vous recommandent de venir honorer vos engagements. Et si les créanciers vous demandent de venir honorer les engagements, il faut bien évidemment que vous ayez les moyens et le potentiel requis pour être à la hauteur de ces engagements. Ça, c'est la première réalité. Mais dans une situation d'un État surendetté, on se retrouve dans un cercle hyper vicieux où la personne ou bien l'État en question se retrouve toujours dans l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers qui peuvent être des opérateurs, bien évidemment, internes comme externes. Et finalement, le pays, jusqu'à preuve de contraire, ne peut pas faire preuve de souveraineté aussi bien à la dimension économique, même à la dimension juridictionnelle, puisque les autres qui sont vos créanciers sont toujours en mesure de recommander à ce que vous puissiez faire face à ces charges, bien évidemment, et c'est leur droit.
Alors, mais donc, le citoyen africain peut se poser la question, les citoyens de ces pays-là peuvent se poser la question, quelles sont les causes de ce surendettement-là?
Ben, pour répondre à cette question, il faut déjà partir sur la genèse de l'endettement. Il faut reconnaître que les pays africains dont on parle, à l'origine des indépendances, ces pays ont objectivement fait preuve d'une insuffisance de l'épargne interne. Donc, ces pays ont eu recours à des financements privés ou étrangers. Maintenant, d'où vient la réalité de leur incapacité à honorer ces engagements? Le véritable problème, c'est que ces pays ont contracté des dettes publiques. Et dans la dimension des dettes publiques, les pays ont bénéficié de ces capitaux, mais n'en ont pas fait usage de sorte à ce qu'il y ait un plan d'amortissement de ces dettes qui permettait à ce que, à l'échéance, ces dettes soient amorties. Je vous prends l'exemple. Si vous bénéficiez, par exemple, d'un montant de 10 milliards pour financer des projets qui relèvent de fonctions purement régaliennes de l'État, par exemple, construction d'écoles, quelle est la portée en termes de retour sur investissement en ce qui concerne la construction des écoles? C'est-à-dire que les premiers bénéficiaires, ce sont les élèves, vont commencer à être rentables 20 ans plus tard. Il fallait objectivement que les négociations s'apparentent au retour d'investissement et à la date d'échéance à partir de laquelle l'investissement commence objectivement à être productif. Les dettes contractées n'ont pas été à la source des investissements qui étaient rentables à la dimension de leur date d'échéance en termes de rentabilité les premières années où on attendait les amortissements.
On présente certains pays qui sont dans l'Afrique australe, notamment des pays comme la République du Congo, le Malawi, Mozambique, Sao Tome et Principe, le Soudan, la Zambie, les pays justement surendettés. Et puis, ceux qui présentent des risques, il y a des pays comme le Cameroun, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, le Comore, l'Éthiopie même et le Ghana voisin. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas citée dans ces pays à risque d'endettement ou surendettés. Alors, quelles ont été les recettes de notre pays?
Dans l'UE, moi, il y a les critères de convergence qui ont recommandé que le taux d'endettement ne devrait pas excéder les 70%, mais la Côte d'Ivoire est largement de ça, avoisine les 50%. Maintenant, il faut reconnaître que pour que l'activité économique puisse avoir des retombées positives en termes de revenus, il faut faut d'abord qu'il y ait une stabilité politique, une stabilité économique, et puis il faut avoir un environnement économique attrayant. Et ça, il faut reconnaître que les pouvoirs en place ont pris les dispositions pour que cet environnement économique ne souffre objectivement d'aucune insuffisance. Il peut en avoir, mais quand même est satisfaisant.
Merci à vous, Dr. Brou Djangi Emmanuel.
Je vous remercie, M. Kome, et à la prochaine.